Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, première épître de Pierre au chapitre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2, nous lirons à partir du verset 11 de Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'idées complètement fausses hein, quant au rôle du chrétien dans la société, et notamment en ce qui concerne son rapport aux autorités, son rapport au gouvernement. Alors, bien sûr, aujourd'hui étant un jour d'élection, et que nous savons tous aussi hein, le contexte dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, il m'a semblé approprié et est nécessaire d'aborder cette question et de revoir ces choses avec chacun, parce que y a beaucoup d'incertitudes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de craintes par rapport à ce qui va se passer, même dans les prochains jours. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont été interrogés, les sondages qui parlent de beaucoup, même une majorité hein, de Français qui craignent des émeutes et des conflits violents et ce genre de choses-là. Et ce même, hein, peu importe les résultats. Mais il y a une chose qui est importante pour nous chrétiens de retenir et de pratiquer, c'est que peu importe que ce soit en période trouble comme en temps de paix, nous devons toujours nous assurer de suivre la volonté de notre Père et de puiser en lui la paix et d'avoir un témoignage. Eh bien, autour de nous, que ce soit envers notre voisin comme envers les autorités, un témoignage, eh bien, de personnes qui pratiquent les bonnes œuvres. Et même par rapport à ce que nous verrons aujourd'hui, hein, il y a, je sais, beaucoup de facilité hein, pour tout être humain de développer même des sentiments de haine, hein, parfois même des pensées violentes par rapport à certains politiciens, par rapport à ce qu'ils mettent en place ou ce qu'ils cherchent à mettre en place. Avant d'aller plus loin, quand même, je tiens à faire ces quelques précisions. C'est que, bon, un, l'Église, elle n'est pas là pour faire de la politique. Et j'espère que ça, vous le savez, que vous le croyez, que vous en êtes conscient. L'Église n'est pas là pour faire de la politique. Nos statuts, hein, c'est ce document légal qui définit hein, ce que nous sommes hein, aux yeux des autorités. Hein, mais nos statuts disent clairement que notre association s'interdit toute action ou ingérence politique. Non seulement ça fait partie de nos statuts, mais c'est aussi un principe qui est également cher aux églises baptistes. Hein, on a eu l'occasion de voir hein, dans nos prédications sur l'Église que voilà, la séparation de l'Église et de l'État, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Autant voilà, nous ne voulons pas que l'État s'ingère dans les affaires de l'Église, tout comme nous devons également croire que l'Église ne doit pas s'ingérer dans les affaires de l'État. Et donc, vous n'entendrez personne, hein, ici, derrière ce pupitre, donner des ordres ou même des consignes par rapport au vote qui favoriserait un parti ou un autre. Jeudi, hein, il y a quelqu'un que on a déjà eu l'occasion hein, d'avoir ici à l'église, qui est venu discuter un petit peu, et puis qui me posait, qui disait, je ne sais pas pour qui voter, pour qui dois-je voter? Je dis, c'est pas à moi de te dire ça. C'est à toi de savoir ce que toi tu désires, ce que tu veux, ce qui est cher à tes idées, et de voter en conséquence. C'est pas une personne qui est sauvée, c'est pas une personne qui est chrétienne. Hein, mais voilà. Ce n'est pas mon rôle en tant que pasteur de faire cela. Et, mais bien au-delà de cette simple et importante hein, déclaration hein, de nos statuts, voilà, nous devons comprendre, et quelque part c'est lié aussi hein, ce que nous voyons par rapport à l'Église, nous devons comprendre que nulle part dans les Écritures, nous avons un commandement qui donne une responsabilité à l'Église ou une responsabilité aux chrétiens de changer le monde. Et je crois que ça, c'est très lié. Hein, les chrétiens qui ont cette idée de vouloir changer le monde et qui associent cela avec la politique. Et on va regarder un peu ces choses un peu plus en détail tout à l'heure. Je ne veux pas trop m'avancer. Mais nous ne trouvons aucun commandement qui nous dise de faire cela. D'accord? Mais ce que nous sommes cependant appelés à accomplir en tant que chrétiens, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et une lumière, elle est faite pour éclairer. Et donc, même si dans l'hypothétique, hein, que voilà, même si la Bible disait que il était de notre responsabilité de changer le monde, je crois que c'est évident hein, pour tous ceux qui ont lu et relu les Écritures, qui ont étudié, qui ont médité les Écritures, que c'est certainement pas par l'action d'un militantisme politique, et encore moins par la force ou par la violence, comme ça a été le cas pour certaines religions, de pratiquer, que c'est pas comme ça qu'on pourrait changer le monde. Il est évident que c'est par une action spirituelle que nous pourrions le faire. Mais encore une fois, Dieu ne nous demande pas de changer le monde. Dieu, il nous demande de présenter Christ, de présenter l'Évangile. Et donc la responsabilité de l'Église envers le monde, c'est une responsabilité spirituelle. Alors, comprenez bien aussi que je ne dis absolument pas que les chrétiens ne doivent pas s'engager dans la politique. Je ne dis absolument pas que les chrétiens ne doivent pas voter, par exemple. Okay? Ce que je dis, c'est que il y a des priorités plus importantes pour le chrétien. Et ce sont ces priorités-là qui vont même nous aider hein, dans nos choix de vote. Mais notre priorité doit toujours être de glorifier Dieu. Notre priorité doit toujours de chercher à présenter l'Évangile à tous ceux que nous pouvons croiser et d'amener les âmes vers le Seigneur. Alors, que dit la Bible? Que dit la Bible sur le rôle du chrétien vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent? On a parlé du fait que ce principe de séparation d'Église et de l'État, c'est un principe qui nous est cher en tant que baptiste, mais le principe le plus important et le plus fondamental, c'est que nous reconnaissons la Bible comme étant la seule autorité pour notre foi, mais aussi pour notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que nous basons toujours, eh bien, nos décisions et nos pratiques sur les enseignements de la parole de Dieu. Alors, que dit la Bible sur le rôle du chrétien vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent? Alors, bien sûr, le passage que nous avons lu ce matin dans 1 Pierre chapitre 2 est assez évident hein, quand on lit le verset 13. Déjà, c'est soyez soumis aux autorités. Alors, bien sûr que quand on parle de soumission, c'est jamais quelque chose de facile. Hein, notre nature pécheresse est une nature rebelle. Et donc, dès qu'on va parler de bah, il faut obéir, dès qu'on va parler de il faut se soumettre, on a une réaction frileuse, presque une réaction allergique à cette idée de soumission. Mais il y a d'autres passages que celui-ci, et que nous aurons l'occasion de regarder également, hein, comme Romains chapitre 13 ou 1 Timothée chapitre 2 et même Tite chapitre 3, qui réitèrent ce même principe concernant eh bien, notre rôle, notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Et donc, dans ce sens, Puisque nous sommes chrétiens, puisque nous sommes disciples de Christ, nous devons chercher à suivre son exemple, à suivre son enseignement. Et je vois, bon, à travers ce passage et même d'autres passages, plusieurs vérités essentielles qui sont à retenir par rapport à cela. Et je crois que ce qui est déterminant pour nous, tout d'abord, la première chose, c'est que notre citoyenneté détermine notre allégeance, n'est-ce pas? Bon, en ce moment, bien sûr, il y a les élections, mais en ce moment, il y a cette compétition de foot, hein, l'Euro, hein, qui se déroule en Allemagne. Et là, bien sûr, hein, ce sont les citoyens des pays qui participent, qui sont en train d'exulter ou de pleurer, hein, selon les résultats de leur équipe. Mais voilà, s'ils soutiennent telle équipe, c'est parce que, voilà, c'est leur citoyenneté, c'est leur nationalité. Ils sont attachés à cette équipe qui représente leur nation, leur pays. À travers le monde, ce qui détermine la citoyenneté, c'est le lieu de naissance, par exemple, ou même la nationalité des parents. Hein, une personne qui est née en France, elle va bénéficier de la nationalité française, ainsi que des droits qui sont liés à cette citoyenneté, comme le droit de voter, par exemple, ou de bénéficier de l'aide du gouvernement français quand ils sont à l'étranger, hein, qu'il y a un souci, il y a l'ambassade française qui est là pour aider ses ressortissants, etc. Donc, la nationalité, la citoyenneté, hein, elle s'acquiert par la naissance, par ce que nous recevons, hein, de nos parents, parce que on peut avoir plusieurs nationalités. Hein, vous savez, moi-même, j'ai une double nationalité. Hein, je suis né en France, mais de par ma mère, j'ai aussi cette citoyenneté américaine. On est en train de se poser la question par rapport à ma nièce qui était avec nous il y a quelques jours, hein, parce qu'un papa irlandais avec une maman française qui est également américaine et elle qui est née en France, on se dit, ben, ça va lui faire combien de nationalités possibles? Bon, cette idée, hein, que nous voyons à travers le monde, nous la retrouvons également dans la Bible par rapport à la vie spirituelle. C'est-à-dire que nous avons une citoyenneté spirituelle à partir de ce que nous lisons dans les Écritures. On peut savoir que selon notre situation vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Dieu, eh bien, nous avons tous une citoyenneté spirituelle. L'humanité, à cause de sa rébellion, à cause de ses péchés, elle est coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu, coupable, comme on le verra, par ses pensées, par ses mauvaises œuvres, de rébellion, hein, de trahison, si vous voulez. Et par le péché, l'humanité a pris une citoyenneté qui n'est pas celle de Dieu, une citoyenneté spirituelle qui nous condamne aux yeux de Dieu. Hein, nous connaissons bien ces passages de Romains chapitre 3, de chapitre 6 également, qui nous parlent de ce que le péché a causé, qui fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu, que c'est le salaire du péché, hein, qui provoque, c'est le péché qui provoque la mort physique et la mort spirituelle. Et donc, notre citoyenneté spirituelle va être déterminée par notre choix vis-à-vis de Dieu. Hein, dans le passage de 1 Pierre et dans le passage, d'autres passages que nous verrons ce matin, le verset 11 parle du fait que nous devons nous considérer comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre. Étrangers, c'est-à-dire que ben, voilà, on n'a pas la nationalité, on n'a plus cette nationalité du reste du monde. Nous avons une nationalité spirituelle qui fait que nous ne sommes pas ici-bas chez nous. Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur Jésus s'adresse hein, au chef religieux qui était autour de lui, mais dans un sens général, ça s'applique à toute personne rebelle à Dieu. De par nature, nous sommes pécheurs. Et Christ leur a dit, vous avez pour père le diable. Okay? On a parlé de nationalité qui se transmet ben, par le lieu de naissance, mais de nationalité qui se transmet aussi par les parents. Et si Dieu nous dit que ben voilà, dans notre péché, à cause de notre péché, notre père, eh bien, c'est le diable. Notre nationalité spirituelle est attachée au diable et à ses œuvres. Mais pour ceux qui se sont repentis, hein, en plaçant leur foi en Jésus-Christ, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, si vous regardez dans 1 Jean chapitre 3 et verset 1er, Ça nous a changé de nationalité, ça a changé de nationalité parce que nous avons changé de parenté. L'apôtre nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Hein, nous le sommes. C'est-à-dire que par la nouvelle naissance, notre citoyenneté spirituelle a complètement changé. Hein, de pécheurs perdus, nous sommes passés à pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. D'ennemis de Dieu, nous sommes passés à être ses enfants, n'est-ce pas? Et donc par cette nouvelle naissance, nous avons changé de citoyenneté, nous avons hérité de cette nationalité de notre Père céleste, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et donc par la foi en Jésus-Christ, notre situation par rapport à cette citoyenneté, hein, on pourrait parler de situation spirituelle administrative si vous voulez, parce qu'on change de nationalité, hein, on change de lien de parenté. Nous sommes citoyens des cieux, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, nous dit Paul, hein, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3, chapitre 2 et Philippiens chapitre 3. Nous étions étrangers, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et donc avec cette nouvelle citoyenneté, eh bien, notre façon de vivre et d'agir change. Notre perspective de la vie ici-bas également doit changer. Paul nous dit en Colossiens chapitre 1er verset 21 que autrefois, hein, nous qui avons placé notre foi en Christ, autrefois nous étions étrangers et ennemis de Dieu, et maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, devenus ses enfants. Mais par la même occasion, en faisant cela, que s'est-il produit? Nous sommes devenus des étrangers pour le monde. Nous ne sommes plus les citoyens de ce monde. Notre citoyenneté, elle est en Dieu. Et donc Pierre, c'est ce qu'il nous enseigne dans le passage que nous avons lu également ce matin. Hein, si vous relisez juste quelques versets auparavant, verset 9, il dit ce qui s'est produit à partir du moment où nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, donc choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, donc à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, du fait de cette nouvelle citoyenneté, notre manière de vivre doit changer. Hein, on doit s'abstenir, hein, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, par exemple. Donc, bien que nous vivions ici-bas et que nous ayons une citoyenneté même physique dans ce pays, en tant que chrétiens, nous devons vivre par la foi, une foi qui nous engage donc à adopter une perspective de vie qui soit fondée sur les Écritures, une vie où on poursuit la sainteté, hein, que même notre culture, les choses que nous lisons, les choses que nous apprenons, les choses que nous adoptons, soient saintes, soient des choses qui nous viennent de Dieu, que notre vie soit empreinte de justice, d'amour et de grâce, parce que c'est ce que Dieu est également. D'avoir un langage également qui sied à un enfant de l'Éternel, et donc d'avoir des priorités de vie, des objectifs qui soient également en accord avec cette citoyenneté, en accord avec la volonté de Dieu. Donc maintenant que nous avons été adoptés et que nous avons changé de citoyenneté, nous faisons partie des gens de la maison de Dieu, notre allégeance, elle est dans notre patrie céleste. D'accord? Et nos objectifs en tant que citoyens des cieux, sont déterminés par les Écritures. Et donc, cette réalité pour nous, doit nous amener également à prendre des décisions importantes sur nos choix de vie. Et la deuxième chose que nous devons voir, c'est que notre disposition détermine nos décisions. Notre disposition détermine nos décisions. Si vous regardez dans Colossiens chapitre 4 et verset 12, dans son épître, Paul y partage aux chrétiens de Colosse le fait que Épaphras, qui accompagnait Paul, qui était un collègue de Paul, les saluait. Et dans sa prière, il priait ceci pour les Colossiens. Il dit qu'à sujet d'Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, donc accomplis, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons être. À cause de notre nouvelle citoyenneté, notre disposition vis-à-vis de Dieu, c'est que nous devons être pleinement disposés à faire ce qu'il nous dit de faire. Malheureusement, l'erreur de certains, c'est de ne pas saisir le fait que la nouvelle naissance, cette nouvelle citoyenneté que nous avons, ce n'est qu'un point de départ, ce n'est pas la finalité. C'est un point de départ. Et ceux qui se contentent simplement, eh bien, d'avoir obtenu la grâce de Dieu, d'avoir obtenu le salut en Jésus-Christ, malheureusement, ils n'ont pas compris l'évangile. Parce que l'évangile nous appelle à être sortis de cette citoyenneté du diable, à être placés dans cette citoyenneté de Dieu, et de maintenant obéir à Dieu. Non plus au diable, mais à Dieu. Non plus à notre chair, mais à Dieu. Et donc, c'est là où on parle, de cette transformation, qui doit s'effectuer dans notre vie. Beaucoup attendent que, voilà, Dieu, il va me transformer et puis, voilà, ça va se faire tout de suite. Non. On en a parlé ce matin. Il y a la persévérance, de la continuité en accomplissant ce que Dieu nous demande d'être et ce qu'il nous demande de faire, n'est-ce pas? Le salut, ça implique que nous prenions cette décision de ne plus vivre selon le péché, mais de vivre selon la sainteté, de ne plus vivre pour soi-même, mais de vivre pour Dieu. De ne plus vivre comme on le faisait autrefois sans Christ, mais de vivre comme Christ. Et si on regarde qui est Christ et ce que Christ a accompli, lui, le Dieu créateur, fait homme, il s'est humilié pour vivre parmi les hommes. Dans quel but? Servir. Et dans le but d'offrir sa vie. Ça, c'est l'exemple de ce que nous devons être en Christ. De pouvoir nous humilier au point de nous mettre dans cette position de serviteur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Si nous ne sommes donc pas disposés à suivre toute la volonté de Dieu, que montrons-nous? Nous montrons non seulement de l'immaturité, parce que nous n'avons pas compris ce que c'est que l'évangile, nous n'avons pas compris ce que c'est que la vie chrétienne, mais ce que nous montrons surtout, c'est une désobéissance liée à un manque d'amour envers Dieu. Un Christ avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, n'est-ce pas? Il a également dit, en Matthieu chapitre 6, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si mon trésor, je le reconnais, est en Christ parce que j'ai cette nouvelle citoyenneté par lui et en lui, c'est là que devrait être mon cœur. Et non plus dans les affections de ce monde, des affections éphémères, mais un trésor qui est durable pour l'éternité. Que penseriez-vous d'un citoyen de n'importe quel pays, mais ici en France, que penseriez-vous d'un citoyen français, par exemple, qui bénéficie de tous les droits et avantages que lui confère sa nationalité, mais qui bafoue irrespectueusement les droits des autres, qui ne paye pas ses impôts alors qu'il en doit, qui délibérément et sciemment transgresse les lois de son pays? Ou bien qui ne choisissent que, tiens, cette loi-là, je l'aime bien, mais celle-là, je l'aime pas, je vais pas suivre celle-là, je vais suivre que celle-ci. On est conscient que si nous avions des personnes comme ça au sein de notre société, et il y en a, on ne se veut pas se leurrer là-dessus, il y en a. Mais on sait que on n'aime pas ça. On sait que ça, c'est détrimental pour la société en général. Mais maintenant, pensez à ça par rapport à la vie chrétienne, par rapport à l'Église, par rapport à cette citoyenneté céleste que nous avons. Malheureusement, beaucoup de chrétiens agissent ainsi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de cette patrie spirituelle, vis-à-vis de leurs concitoyens. Comprenez bien que si nous ne sommes pas entièrement soumis, parce que là, c'était la prière d'Épaphras, n'est-ce pas? Que vous soyez pleinement, c'est entièrement. Et là même, rajouter en toute chose, hein, à la... Si, je ne sais pas si on peut rajouter d'autres absolus, hein, dans la phrase, là, mais il est évident que si nous ne sommes pas entièrement soumis à la volonté de Dieu, que si nous choisissons de ne suivre que les commandements et les principes qui nous plaisent, eh bien, nous sommes désobéissants. Et comme Jacques le rappelle d'ailleurs, quiconque observe la loi, toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Et puisque nous sommes donc citoyens des cieux, ce sont les affaires de cette nouvelle patrie qui sont prioritaires sur tout le reste. Vous rappelez, on l'a lu, hein, dans les lectures de notre programme, en Luc chapitre 2, verset 49, quand Jésus était resté au temple et que ses parents le cherchaient partout. Et qu'est-ce que tu fais ici? On te cherche depuis plusieurs jours. La réponse du Seigneur, c'était quoi? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il y avait une priorité, n'est-ce pas? Et la priorité, là, c'était de s'occuper des affaires de son père. Ce que Christ a montré ici, c'est quoi? La loi, les 10 commandements, hein, ne dit-elle pas que les enfants, dans les commandements donnés à Moïse et même répétés dans le Nouveau Testament, les enfants doivent obéir aux parents, n'est-ce pas? Et honorer leurs parents. Et certains auraient pu penser que, bon, voilà, Jésus, il a désobéi à la loi à ce moment-là. Hein, s'il a fait ça, c'est que, bon, il n'a pas respecté ses parents. Hein, il leur a fait quand même beaucoup de peur et beaucoup de peine. Mais les affaires de mon Père sont plus importantes. Matthieu 6, 33, hein, on connaît, que l'on chante bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La priorité de la vie du chrétien va être Dieu et l'avancement de son royaume. Il ne peut pas en être autrement. Si nous avons des priorités dans notre vie qui sont plus grandes que Dieu et sa volonté, nous sommes devenus désobéissants. Et donc notre action ici-bas doit toujours avoir Dieu comme exemple, comme motivation. Si nous sommes donc pleinement disposés à entièrement obéir à Dieu, si nous cherchons premièrement le bien et l'avancement de son royaume, eh bien, nous allons pouvoir à ce moment-là remplir les fonctions auxquelles Dieu nous a appelés. À notre disposition détermine nos décisions. Et si notre disposition, c'est d'être soumis à Dieu et de chercher à lui obéir en toutes choses, eh bien, ma décision maintenant, ça va être quoi? D'accepter les fonctions qu'il m'a données. Et ça, c'est la troisième chose à retenir ici. C'est que notre fonction détermine nos actions. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 20, nous dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur pour Christ. Ah, ça sonne bien, ambassadeur, c'est un titre qui est très intéressant, hein, qui donne un certain prestige. Mais voilà, en plus de notre nouvelle citoyenneté, Dieu nous a confié une fonction, celle d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un officiel, hein, qui est chargé de représenter son pays auprès d'un pays étranger. Un ambassadeur représente le gouvernement de son pays. Il agit en tant que porte-parole, Il va chercher les intérêts, hein, de son pays. Il va mettre en avant le pays qu'il représente. Et donc la mission d'un ambassadeur de Christ, elle est avant tout spirituelle. Le royaume de Christ, c'est un royaume spirituel. Et elle a pour objectif premier, hein, de glorifier Dieu, de lui être agréable en toutes choses. Un autre passage, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui nous parle de l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, c'est celui de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et tous les hommes, ça inclut, verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été prédicateur, établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ah, là on en arrive à un aspect un peu plus pratique de notre relation vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. On a une fonction spirituelle de prier pour les autorités. Et notre prière devant Dieu, pour les autorités, comme on le voit au verset 8, peu importe la prière d'ailleurs, mais ça doit être en élevant des mains pures, sans colère. Sans colère ni mauvaise pensée. Alors oui, humainement parlant, hein, quand nous voyons des politiciens, des gouvernants mettre en place des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la sainteté, oh! On n'est pas content, n'est-ce pas? Il faut faire attention à la colère, hein. Il y a une bonne colère, il y a une mauvaise colère, mais nous devons maîtriser les deux de toute façon. Mais quand il s'agit de prier pour ses autorités, on doit se débarrasser de cette colère. Et on doit se débarrasser de ces mauvaises pensées vis-à-vis de ces personnes et de prier pour elles. Alors que devons-nous prier? Vous me demanderez peut-être. Hein, certains diraient, oh, il faut prier pour qu'il soit destitué, que ça change. On peut prier pour que le Seigneur mette en place quelqu'un qui soit plus favorable, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Mais je crois que même là, avant tout, nous devrions prier pour que ces personnes qui nous dirigent puissent connaître le Seigneur. Ce sont des personnes qui sont perdues. C'est des personnes qui sont sous la condamnation du péché. Cette fonction d'ambassadeur, de prier donc pour les autorités, pour qu'ils aient cette sagesse de prendre les décisions qui honorent Dieu et de faire en sorte de maintenir aussi la paix et la liberté, hein, dont nous bénéficions dans notre pays comme la France, c'est important. Mais de prier pour leur salut, ça doit être la priorité. Si nous avons cette fonction d'ambassadeur, hein, dans ce passage de 2 Corinthiens 5, Paul, il donne ce commandement également, soyez réconciliés avec Dieu. Alors là, certes, oui, ça, il parle, il s'adresse aux chrétiens de Corinthe à cause des problèmes qu'il y avait. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a confié aux chrétiens un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. Que ce soit dans l'Église, par rapport au fait que quand il y a des luttes, des disputes, etc., nous devons tout faire pour la réconciliation. De la même manière, ce ministère de la réconciliation, c'est de pouvoir amener les perdus à être réconciliés avec Dieu. Vous avez noté en verset 4 que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous avons donc un rôle et une fonction en cela, en tant que chrétiens, de partager l'évangile, de proclamer la vérité et de chercher à amener toutes les personnes, même celles qu'on n'aime pas, qu'on a du mal. D'ailleurs, Christ nous dit d'aimer nos ennemis. C'est pas pour rien. La meilleure façon d'aimer un ennemi, c'est de lui parler du Seigneur. N'est-ce pas? Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Et il continue donc ce verset, au verset 18, il dit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc. C'est parce que nous avons pu être réconciliés avec Dieu que maintenant nous pouvons faire cette fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc ces fonctions, elles sont spirituelles. Et parce que nous devons prier pour eux, prier pour la sagesse, prier pour leur salut. Mais vous avez noté également qu'avec ces prières et ces supplications et ces requêtes, il y a également des actions de grâce. Est-ce que ça vous est arrivé de prier pour ceux qui nous gouvernent, même si ce sont des personnes avec qui vous êtes en opposition dans les idées politiques, de remercier Dieu pour eux? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour de telles personnes? On va le voir un peu plus tard que ces autorités, même si elles ne font pas la volonté de Dieu, elles ont été instituées par Dieu. Est-ce que nous sommes amenés à respecter, est-ce que nous sommes amenés à remercier Dieu, c'est pour ces fonctions qui existent et pour ces personnes qui font ce travail. La prière, parce que oui, effectivement, il n'y a que Dieu qui puisse changer les cœurs. On ne va pas changer les cœurs en votant des lois. Ça ne marche pas. Dieu a mis en place des lois que l'humanité n'a pas suivies. Et même son peuple a eu extrêmement de mal à suivre. Des supplications et des requêtes pour qu'il soit sauvé. Donc cette mission d'ambassadeur exige de respecter ces autorités. Imaginez qu'un ambassadeur fasse son travail d'ambassadeur, mais qu'en même temps, il soit en train de critiquer constamment le président du pays dans lequel il exerce. Il ne va pas rester longtemps en place. Il ne va pas réussir à accomplir ce pour quoi il a été envoyé. Non seulement de représenter son pays, mais d'essayer de d'établir ce lien. Et pour nous, en tant que chrétiens, ce lien, c'est la réconciliation avec Dieu. Romains chapitre 13, Paul réitère ce principe de soumission au verset 1er. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 13, il nous dit « Soyez soumis à toute autorité », mais il note bien « à cause du Seigneur ». Ce qui va me permettre d'être soumis aux autorités, c'est avant tout d'être soumis au Seigneur. Et c'est par amour pour le Seigneur que je vais obéir à ce commandement. Notre soumission aux autorités découle donc de notre soumission à Dieu. Ces autorités, Dieu les a instituées. Et nous devons respecter cela. Respecter cela parce que, bon, comme il est question dans ces passages, il y a aussi une punition. Lorsqu'on désobéit aux règles et aux lois du pays, lorsqu'on ne respecte pas les autorités qui nous gouvernent, mais aussi par motif de conscience. Parce que en tant que citoyen des cieux, je veux m'assurer de représenter ce pays-là. Notre respect envers les autorités découle de notre respect de Dieu et du fait que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Et ça, nous avons trop tendance à l'oublier. C'est que sans Christ, nous ne sommes pas différents des autres. Dans le passage de Tite, chapitre 3, un autre passage où il parle de cette soumission, Verset 1er dit: Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler en mal de ceux qui nous gouvernent. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pourquoi? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres même. Ne pas respecter et désobéir aux autorités sur la base que nous ne les aimons pas, ou même parce qu'ils ont des politiques ou des mœurs contraires aux principes bibliques, demeure néanmoins une désobéissance aux ordres clairement établis dans ces passages d'être soumis en toute chose à Dieu et d'être soumis aux autorités parce qu'il les a instituées. Et donc c'est pour Dieu que nous le faisons. Pas parce que les gens le méritent, mais parce que Dieu le demande et lui le mérite. Et au-delà même de ce respect, nous l'avons vu, nous devons même honorer. Honorer les autorités, non pas encore une fois sur la base de leurs agendas politiques ni de leurs actions, mais sur la base de leurs fonctions et de l'origine de ces fonctions. C'est Dieu qui les a établies, c'est lui qui a établi l'ordre, c'est lui qui les a instituées. Donc être soumis aux autorités, attention, ne signifie pas que nous approuvions tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent. Mais par cela, par cette soumission, nous manifestons le respect. Et croyez-moi, quand les gens voient que vous les respectez, ils sont plus attentifs à ce que vous avez à dire. Et donc, quand les autorités également voient que nous les respectons, que nous faisons les choses dans les règles, elles seront plus à même à écouter. Et par cela, donc, nous pouvons accomplir hein, ce ministère de la réconciliation. Dans ce passage de 1 Pierre, hein, chapitre 2, verset 15, hein, il nous est dit: « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » De la même manière que quand Christ nous dit « Aimez vos ennemis » et que nous montrons cet amour à nos ennemis, ils sont interpellés. Choqués par cet amour, ils ne comprennent pas. Certains vont tourner en dérision, d'autres vont être amenés à une réflexion plus profonde. Tout comme en pratiquant le bien, eh bien on va réduire au silence ces hommes ignorants et insensés. Et verset 16, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, nous sommes libres. Mais en agissant comme des serviteurs de Dieu, voilà ce qui est important pour nous, d'agir comme des serviteurs de Dieu. Nous avons la liberté. Nous avons la liberté d'expression. Nous avons une liberté d'action. Mais ça ne veut pas dire que lorsque nous respectons les autorités, eh bien, nous approuvions ce qu'ils font. Hein, ce n'est pas comme si nous étions en train de mettre un voile qui couvre leur méchanceté. Nous ne sommes pas en train de faire ça. D'ailleurs, parmi nos fonctions hein, d'ambassadeur, ça va être aussi pour nous la responsabilité même de dénoncer, de condamner le péché. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, hein, il nous rappelle qu'autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et quoi? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire que oui, nous devons respecter, oui, nous devons honorer, mais quand les autorités font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous avons aussi non seulement la liberté dans ce pays, mais nous avons la liberté en Christ, plus important encore, bien d'exprimer ce que Dieu dit à ce sujet-là. Condamner le péché tout en professant la vérité dans l'amour, hein, dans la douceur de Christ lui-même. Or, est-ce qu'il y a des limites à cela? Je sais que le temps file, mais Est-ce que nous devons être soumis en toutes choses aux autorités? Non. Ça va peut-être choquer les autorités qui vont écouter ce message sur Internet, mais aucun des passages des Écritures laisse sous-entendre que nous devons être soumis en toutes choses. Le chrétien peut, oui, désobéir, eh bien, à des ordres, des commandements que des autorités nous demanderaient de faire. Nous n'avons pas à être soumis à ces autorités-là dans des situations où nous, en tant que chrétiens, nous serions forcés à accomplir ou à dire les choses qui sont contraires à la sainteté de Dieu. Exemple, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, quand les nazis forçaient des prisonniers à tuer un autre prisonnier, en disant tu le tues, tu es libre. Si tu ne le tues pas, je te tue. En tant que chrétien, je crois que le choix logique pour nous, c'est qu'on ne va pas obéir à cet ordre-là, n'est-ce pas? De toute façon, qu'est-ce que la mort pour nous si ce n'est que d'être dans la présence du Seigneur? Il y a certes des situations où nous allons être amenés à désobéir à ces autorités-là, parce que nous avons une autorité qui est supérieure à celle-là. Ces autorités qui nous gouvernent ont été instituées par Dieu lui-même. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, hein, lorsque Pierre et les apôtres prêchaient et annonçaient l'évangile, hein, ils avaient été arrêtés par les autorités. Et au verset 28 de ce passage, ils disent: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous vous rappelez de la réponse de Pierre? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou même, si nous nous retrouvons dans une situation d'oppression, hein, de la part des autorités, hein, du gouvernement, rappelez-vous de ce que Paul a dit à Timothée. Dans sa deuxième épître, chapitre 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non. Alors oui, quand les autorités exigeront que nous pratiquions le péché, nous ne pourrons pas leur obéir, parce que nous obéissons d'abord à Dieu. Dieu nous demande d'être soumis, de respecter, d'honorer les autorités, mais quand ces autorités nous demandent d'agir, contrairement à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu nous dit, obéissez-moi, pas à eux, mais à moi. Alors, je sais que certains chrétiens n'apprécient pas le gouvernement, que ce soit dans ce pays ou dans un autre, hein. Certains même sont allés dans leur réflexion, hein, jusqu'à dire moi, je ne vais plus payer mes impôts parce que cet impôt, il est utilisé pour faire des choses horribles, contraires à la volonté de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. La même réponse que le Seigneur a donnée aux pharisiens, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pourquoi? Dans ce passage de Romains 13 que nous avons déjà cité, mais plus loin dans les versets 6 à 7, il dit par rapport au fait que ces autorités ont été instituées de Dieu, il dit c'est aussi pour cela, hein, par rapport à notre crainte envers Dieu, crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience, il dit c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Les impôts, ça va toujours être là. Benjamin Franklin, il a dit, il n'y a que deux choses permanentes et certaines, hein, en ce bas monde, c'est la mort et les taxes. Il y en aura toujours. Mais les impôts, quelque part, sont par nature ben quelque chose de juste. Hein. Notre société, elle fonctionne parce que voilà, nous payons des impôts, cet argent il est également employé pour que nous en bénéficions, que ce soit par le programme de santé, par rapport à la sécurité, toutes ces choses-là. Bon, les impôts sont de bonnes choses. Mais là, le passage, il parle également de tribus. Et tribus, c'était quoi? C'était une sorte d'impôt, de taxe, mais par rapport à un ennemi qui avait conquis un territoire et qui maintenant exigeait ce territoire de payer, que ce soit en or, en argent ou en toutes sortes de biens, sans quoi bah, il les massacrait ou il ne les protégeait pas. Nous avons une fonction, hein, en tant qu'ambassadeur, de présenter Dieu, de présenter sa parole, mais de montrer aussi, eh bien, le respect et l'honneur qui est dû à la fonction de ces personnes-là. Nous ne sommes pas obligés d'approuver ce qu'ils font. Nous ne devons pas participer à ce qu'ils font. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais cette fonction, nous ne devons pas la prendre comme un prétexte pour dire je vais être irrespectueux parce que ce seront des mauvaises personnes. Je ne vais pas obéir parce que voilà, ce qu'ils font de l'argent, etc., ce sont des mauvaises choses. Vous pensez que les chrétiens à l'époque, là, les impôts qu'ils payaient, ils les payaient à qui? Ils les payaient à Rome. Et même en Israël, ils les payaient à Rome, mais ils les payaient aussi à un roi qui n'avait vraiment aucune réelle sympathie pour le peuple. Qui s'enrichissait? Est-ce qu'il méritait d'être payé ainsi? Non. Est-ce qu'il y avait une obligation? Oui. Et là est toute la différence. Et permettez-moi juste prendre quelques minutes, je sais que le temps il a filé très vite, mais par rapport à la situation que nous vivons actuellement, même dans notre pays, et par rapport à toutes ces choses-là, dernière chose que nous devons comprendre et voir, c'est que notre foi détermine notre paix. On ne sait pas ce qui va se passer avec les élections. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons perdre notre paix. Notre foi détermine notre paix. Et donc, la foi, hein, comme vous le savez, comporte ces trois aspects fondamentaux, le fait de croire, d'obéir, mais aussi de faire confiance. Et notre foi, elle est essentielle à l'accomplissement de tout ce que nous avons pu voir ce matin, n'est-ce pas? Nous croyons en Dieu, donc nous lui obéissons. Mais nous voulons également lui faire confiance. Sans la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas connaître la paix, n'est-ce pas? La paix, elle vient de notre relation avec Jésus-Christ. Hein. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Paul dans Romains chapitre 5. Et donc cette paix que Dieu donne, ce n'est pas la quiétude produite par les circonstances, mais c'est la paix que Dieu produit dans le cœur, parce que nous faisons confiance en lui. La confiance en lui que nous avons, en ses promesses pour notre quotidien, pour notre avenir, nous amène à être dans la paix. Hein, si vous connaissez hein, le passage de Jérémie 29 et ce verset 11, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Hein, souvent, on cite ce verset hors de contexte. Hein. Ça s'appliquait au peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone. Mais ce qui semblait, et c'est pour ça que je cite ce passage-là, c'est que pour le peuple d'Israël à ce moment-là, ce qui semblait comme une grande calamité, Israël ravagé, Jérusalem, le temple détruit, en captivité, ce qui semblait comme une grande calamité, en fait, était l'œuvre de Dieu. Alors, souvent, on dit, ah, c'est le châtiment de Dieu, c'est le châtiment. Dieu a préservé son peuple. Dieu a préservé ceux qui était fidèle. Et dans ce même passage de Jérémie 29, l'Éternel donne un conseil très important. Il dit au verset 8, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. C'est-à-dire que oui, il y a des prédicateurs qui vont dire, il faut être rebelle vis-à-vis des autorités, il faut renverser ces autorités, il faut voter pour telle personne, etc. Verset 10, il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Rappelez-vous du contexte. Captivité, pays détruit, ville sainte détruite, temple détruit. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. C'est-à-dire que, un, il a mis un temps fixé. Ensuite, il dit, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, hein, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous fais aller en captivité. Il y a la promesse. C'est ce qui donne l'espérance, et cette espérance, c'est ce qui donne la paix. Mais notez aussi que dans ce passage de Jérémie 29, Dieu, il a donné des consignes à son peuple, alors qu'il devait vivre en captivité, dans un territoire hostile. Jérémie 29, versets 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ce n'est pas un principe qui est nouveau, simplement pour l'Église, que de prier pour ceux qui nous gouvernent, même s'ils sont de mauvaises personnes. Recherchez le bien de la ville, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et à travers l'Ancien Testament, nous avons même des exemples de personnes qui ont vécu de terribles choses et qui ont choisi de se soumettre à Dieu et donc de se soumettre à ces autorités-là, n'est-ce pas? Joseph, il a tout vécu, le pauvre. Rejeté par sa famille, pris en esclavage, injustement accusé, jeté en prison. À aucun moment on le voit se rebeller contre ses autorités, ni même contre Dieu. Ça a pris du temps, il a placé sa foi en Dieu, mais Dieu a répondu. Et ce qui est exceptionnel, hein, quand vous relisez toute cette histoire de la vie de Joseph, c'est que quand finalement, hein, il se dévoile à ses frères, il montre qui il est, maintenant qu'il était devenu le deuxième dans le royaume, il dit maintenant je comprends que Dieu a permis cela pour ce jour. Et Joseph a compris que ben, ces temps difficiles, épreuves, etc., il y avait un objectif fixé par Dieu. Mais il a montré un exemple exceptionnel, n'est-ce pas? Un autre exemple, c'est celui de Daniel. Hein, relisez encore tous ces récits de ces hommes. Et voilà. Même Daniel nous enseigne que Dieu est souverain dans tout ce qui se passe dans les affaires du monde. Et il y a un verset que j'aime beaucoup aussi, c'est Proverbe chapitre 21. Verset 1er nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Ça veut dire que Dieu est en contrôle. Et Dieu permet les situations. Et Dieu permet certains à être au pouvoir. Et même si à nos yeux, ils peuvent être des personnes horribles, ce que nous devons garder à l'objectif et nos regards fixés sur cet objectif, c'est que Dieu a un plan déterminé pour cette humanité, et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc l'avenir et l'espérance que Dieu a donné à son Église n'est pas dans une réussite ici-bas, ni dans l'approbation du monde à notre égard, mais dans le fait que Dieu est souverain et que c'est son plan qui s'accomplit. Donc, Ne laissons pas la crainte, ni la colère, s'emparer de notre paix que nous avons en Christ. Mais préservons-la en faisant ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? En nous rappelant de là où est notre citoyenneté, en nous rappelant de notre disposition de cœur qu'elle doit être pour Dieu, en nous rappelant que nous avons cette fonction d'ambassadeur, et en nous rappelant, n'est-ce pas, que notre paix, elle est en Dieu. Donc peu importe ce qui se passe, ce qui se passera aujourd'hui et dans les semaines à venir, je ne dis pas que je m'en fiche, mais je fais confiance au Seigneur. Mais je veux surtout faire ce qui est juste à ses yeux et avoir la bonne attitude vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, parce que Dieu le demande. Prions. Père, nous te louons pour ce temps que nous avons pris ce matin, et certes, le temps a été un peu plus long que d'habitude.